Et rebonsoir dans l'émission Onde Noire. Et nous avons le plaisir donc de recevoir Colin Niel. Bonsoir Colin.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre donc sur notre radio Agora FM pour évoquer votre dernier roman qui, si je ne m'abuse, paraît aujourd'hui.
Eh ben, bonsoir à vous, merci de m'accueillir. C'est aujourd'hui effectivement la sortie de Seules les Bêtes, mon...
Voilà, donc un roman Seules les Bêtes dans la collection Rouergue Noir aux éditions du Rouergue. Alors, je situe un petit peu votre parcours, c'est votre quatrième roman. Tous les autres sont parus aussi aux éditions du Rouergue. Vous avez aussi un métier sérieux, dirais-je. Vous travaillez à la préservation de l'environnement et de la biodiversité, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça, même si depuis 2 ans, je me consacre à l'écriture, mais effectivement, mon métier original, c'est ça, ouais.
Voilà, donc vos 3 précédents romans multi-récompensés, en particulier le dernier, Obia, je crois qu'il en est à sa 6e récompense, j'ai bien compté.
Oui, c'est ça.
Voilà, se passait pour ces 3 romans majoritairement en Guyane et mettait en scène un flic, entre autres, hein, beaucoup de personnages, mais un flic anato. C'était des romans, ce sont toujours d'ailleurs, on peut toujours se les procurer, bien sûr, des romans denses avec beaucoup de personnages, des histoires avec des fils multiples, des suites, des poursuites, des courses. Dans Pour Seules les Bêtes, j'ai l'impression qu'on a un virage à 180 degrés. 5 personnages et un petit coin perdu des Cévennes. Je me trompe ou il y a vraiment un changement d'univers ?
Oui, c'est vrai que c'est très différent, dans le sens où autant l'environnement, puisqu'on est vraiment sur les côtes, dans une zone rurale française, autant la construction du livre, qui est pas du tout la même que celle que j'avais dans Obia, tout ça c'est effectivement très différent pour moi. En même temps, voilà, c'est des thématiques qui pour moi restent quand même assez proches. Voilà, Obia, effectivement, il y avait ce côté voyage, on était en Guyane, on avait l'impression d'être quelque chose de très exotique. Mais moi, ayant vécu en Guyane, c'était pas si exotique que ça pour moi. Donc la veine sociale, le quotidien des gens, les problèmes de la vie de tous les jours, etc. Ça faisait aussi partie des sujets que j'essayais de mettre en avant dans Obia, quoi.
Et que ce soit dans un coin perdu des Cévennes ou des immensités très denses et feuillues de Guyane, c'est quand même des personnages qui vont dans le mur, qu'ils soient métaphoriques ou pas.
Oui, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse. Enfin, je pourrais dire le 80% de l'intérêt d'un livre, c'est quand même les personnages, quoi. C'est l'empathie qu'on peut éprouver, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que lecteur, vis-à-vis de ces personnages. Donc, c'est vraiment ça que je voulais travailler. Et c'est vrai que par rapport à Obia, où on était vraiment dans une enquête policière, où on suivait un grand nombre de personnages, là, je voulais vraiment me centrer sur un nombre limité de personnages pour réussir vraiment à les approcher leur intimité et leur quotidien, quoi. Le sujet central du livre pour moi, c'était la solitude, quoi. Cette solitude qu'on peut, qui ici est dans une zone rurale, mais qu'en fait on peut ressentir partout, qu'on a tous, à mon avis, ressenti une fois dans notre vie et qui est la cause de beaucoup de souffrances. Moi, j'avais été pas mal touché par ça. C'est des sujets qui me touchaient beaucoup. Alors, et j'avais envie de parler, quoi. Ouais.
La solitude, c'était une de mes dernières questions, donc on va y venir tout de suite. Un petit extrait. Donc là, c'est par la voix de Joseph et un petit extrait qui montre, entre autres, sa solitude à lui. Là-haut, quand la nuit est installée pour de bon, c'est le pire. C'est là que tu réalises vraiment. T'es sous les draps, encore à moitié habillé dans ce grand lit qui connaît que toi. Et tout autour, tu sens le poids de cette baraque que la vie a désertée avec les années. Et juste avant, il dit, et ça c'est le plus terrible, t'as personne d'autre à détester. Alors ça, c'est la solitude à l'infini, je dirais. C'est un des personnages, Joseph. Donc, ce que j'aimerais un petit peu savoir, c'est il y a 4 personnages. On a Alice, l'assistante sociale, Joseph, le berger, que je viens de faire parler, Marie B., une jeune étrangère au pays, au petit coin de Cévennes. Et puis enfin Armand, la voix qui vient de très loin, qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Comment ils sont intervenus petit à petit pour construire cette histoire dans votre tête ?
C'est venu en plusieurs étapes, quoi. Moi, je voulais parler de sujets de la solitude et puis de l'amour au sens large, quoi, et de l'amour ce qui est devenu l'amour aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment les représentations, c'est-à-dire que quand on aime, qu'est-ce qu'on aime en fait, est-ce qu'on aime quelqu'un physiquement, est-ce qu'on aime l'image, est-ce qu'on aime l'idée qu'on s'en fait, et comment on peut se débattre avec tout ça. Et je voulais, à travers ces personnages, construire une sorte de mosaïque pour approcher ce problème-là, et montrer aussi comment les choses peuvent être connectées, comment quand on vit dans une zone rurale très isolée sur le Causse, où on imagine qu'on voit jamais personne et qu'on a cette solitude qu'on vit au quotidien, hein, voilà, c'est vraiment des gens qui des fois pendant 2, 3, 4 semaines ne voient vraiment personne, ou seulement le vétérinaire qui vient voir les bêtes, quoi. Et comment tout ça pouvait quand même être connecté avec le monde, parce qu'aujourd'hui en fait tout est connecté, et c'est un peu de ça que je voulais parler, quoi, cette idée qu'en fait l'amour c'est devenu un grand marché, quoi, c'est devenu un bien de consommation un peu comme tout aujourd'hui, et que comme dans tout marché, bah, y a des exclus, c'est-à-dire des gens qui sont totalement à l'écart de tout ça, et puis d'autres qui au contraire en tirent parti et en profitent, quoi. C'était pour moi le sujet central, quoi. Oui, et tout est venu un peu après s'agréger autour de cette idée-là, quoi.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on va retrouver en dernier personnage la quatrième voix, Armand. C'est un marché vraiment international, puisque lui est très très loin des Causses, mais arrive à se connecter quand même par mail, par internet, à un ou plusieurs, on va pas dévoiler l'intrigue, hein, mais à un des personnages, et finalement déclencher énormément de choses. Alors je reviens à ces quatre voix, puisqu'en fait le roman est construit quatre parties où s'exprime au jeu, en fait, des fois au tu, Joseph, des fois il s'interpelle lui-même, mais ces narrations très intimes, moi j'ai été assez éblouie par la manière dont vous avez su trouver à la fois les voix, la narration, mais aussi le vocabulaire. On reparlera de celui d'Armand, j'espère, dans deux minutes. Mais comment on sait qu'à un moment donné, on arrive à trouver le ton juste pour cette assistante sociale, et puis totalement différent Joseph, et puis Marie B, cette jeune femme qui en est à sa plusieurs vies, à chaque amour, elle change de vie. Voilà, comment est-ce qu'on écrit les morceaux différemment? Voyez, j'espère que vous comprenez ma question.
Oui, tout à fait. Surtout que bon, ça a été, ça peut paraître peut-être un peu fluide aujourd'hui, mais ça a été très très dur à construire. Surtout que pour moi, c'était très différent après Obia qui a écrit entièrement à la troisième personne. Et là, c'est ce que je voulais, quoi. C'est-à-dire que pour parler de solitude, je voulais parler d'intimité. Je voulais rentrer dans l'intimité des gens. Et pour moi, le jeu, la première personne, c'était le seul moyen d'y arriver. J'avais quelques livres en tête, des modèles pour moi. J'avais notamment L'été meurtrier de Sébastien Japrisot, qui est un livre, une référence à moi, un livre que j'adore, quoi, qui je trouve vraiment arrive très très bien à rendre ce côté un peu choral, où on passe d'un personnage à l'autre, et où on a vraiment l'impression de rentrer dans la tête, et que ça s'exprime à travers tout, quoi, la manière de penser, la manière de s'exprimer, le vocabulaire, la grammaire, la manière de se parler à soi-même, enfin toutes ces choses-là.
Oui, qui montrent en fait l'univers de chaque personnage.
Voilà, c'est ça. Et je voulais essayer vraiment de faire ça, c'est-à-dire pas faire une fausse première personne, c'est-à-dire une première personne qui serait qu'un prétexte, mais vraiment une première personne qui soit propre à chaque personnage. Et donc moi, c'est pas quelque chose de fluide, quoi. C'est de fluide dans la construction. C'est quelque chose de très, j'ai énormément tâtonné, quoi. C'est-à-dire pour chaque personnage, j'y ai passé énormément de temps. J'ai cherché la manière de composer en jouant, comme vous disiez, sur le vocabulaire, sur la grammaire, sur la longueur des phrases, sur aussi la manière de découper les paragraphes à l'intérieur du texte. Est-ce qu'on a des gros blocs de paragraphes, ou on a au contraire des petites phrases isolées? Jouer un petit peu sur tout ça pour que chaque personnage ait sa propre identité, quoi. Jouer sur les temps aussi, où on a effectivement Barry B qui parle beaucoup au présent, parce qu'elle est pour moi beaucoup plus dans l'instant, dans la spontanéité que les autres. Voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps quoi à essayer de construire tout ça quoi.
Et puis il y a cette idée, et ça je trouve que c'est l'excellente idée narrative de ce roman, entre autres, c'est finalement de tenir le suspense, non pas, alors faut le dire, moi j'aime pas raconter les histoires des romans, j'espère que nos auditeurs vont se précipiter chez leur libraire, mais l'idée, il y a une disparition, il y a une femme qui disparaît dans un coin de Causse, en plus en plein hiver, donc on ne va pas retrouver son corps, et finalement le suspense, il tient uniquement aux confidences intimes des uns et des autres. Il y a le fil, c'est uniquement un suspense par les confidences qui vont rebondir d'une vie à une autre.
Oui, c'était ce que je voulais, quoi. C'est-à-dire que vraiment, quand mes précédents romans, on a toujours une énigme, on a toujours une enquête, etc. Mais c'était l'enquête, quoi. On suivait la manière dont petit à petit on apprenait les choses, dans la manière dont les gendarmes, en l'occurrence, découvraient un petit peu ce qui avait pu se passer. Et là, je voulais mettre tout ça de côté, quoi. C'est-à-dire, je voulais avoir une intrigue, une vraie intrigue bien construite. Mais pas d'enquête, quoi. C'est-à-dire quelque chose qu'on apprend par petits bouts, et en fait, pour que l'enquêteur soit le lecteur, en fait, quoi. C'est-à-dire que c'est le lecteur
qui recueille. Et aille plutôt enquêter dans la tête des personnages,
voilà,
plutôt que des indices.
Voilà, tout à fait, ouais. Et en fait, que chacun des personnages détient une partie de la vérité, quoi. Et que la vérité, elle ne peut se comprendre qu'à travers l'ensemble de ces personnages, pour peu qu'il y ait une vérité, enfin qu'on parle vraiment de vérité, parce que tout ça est très...
Il y a des vérités pour chacun d'entre eux. Et donc justement, alors évidemment, le suspense tient jusqu'au bout. Il faut vraiment ne pas lâcher le roman, et on n'a pas envie de le lâcher, pour comprendre cette disparition, puis une deuxième disparition. Et donc, le dernier à rentrer en scène, c'est celui qui n'habite pas l'Écosse, c'est Armand. Armand, alors lui, on parlait du phrasé, du vocabulaire, sa langue, alors je vais sortir un mot en plus de trois syllabes, il utilise une langue vernaculaire de son pays, c'est spectaculaire. C'est un faroteur, il est enjaillé fou de monie, il travaille dans le love. D'où vous vient cette connaissance? Parce que ça fait vrai, ces mots ils sont pas inventés.
Non, bien sûr c'est pas inventé. Moi je suis pas un très grand connaisseur de l'Afrique, hein, même si j'y ai voyagé, j'y suis allé plusieurs fois. Je peux pas dire que je connaisse l'Afrique, en tout cas beaucoup moins intimement que la Guyane, qui était le territoire dont je parlais dans mes romans précédents. Et l'Afrique s'est un petit peu imposée, voilà, sans révéler l'histoire, mais pour les besoins de l'histoire, en fait. Et je me suis dit, mais bon, voilà, si on a un personnage, un jeune faroteur, comme on dit, africain, il faut le traiter à égalité avec tous les autres personnages, c'est-à-dire il faut réussir à être autant dans son intimité, autant dans sa tête que dans les autres personnages, ce qui n'était pas forcément un exercice facile. Et donc, il y a ce vocabulaire, quoi, cette langue africaine, en Côte d'Ivoire, où ils ont cette langue qu'on appelle le noufi, quoi, qui est le français parlé, quoi, le français africain, enfin d'Afrique de l'Ouest en tout cas, et qui était quelque chose que je connaissais pas très très bien, quoi. Et donc la manière de le composer...
Vous avez bien appris, Colin, vous avez très bien appris.
C'est ça, c'est venu essentiellement par des rencontres. J'ai pas eu l'occasion d'aller là-bas spécialement pour le livre, je me suis basé sur ce que je connaissais d'avant, mais par des rencontres avec des Africains de qui vivent en métropole, qui m'ont pas mal aidé. Et puis pas mal de lectures, pas mal de vidéos qui traînent à droite à gauche, où on trouve plein de choses sur ce fameux noufi, quoi. Il y a notamment une série de bandes dessinées, hein, qui est très connue, qui s'appelle Aya de Yopougon, qui est une super bande dessinée qui se passe à Abidjan, quoi, et qui a été une source d'inspiration. J'ai piqué quelques idées là-dedans, on va dire.
Et ce personnage, alors il tranche évidemment, normal, entre l'Écosse, la Côte d'Ivoire, les Français CFA. il tranche particulièrement avec les trois autres, même s'il va faire le lien, même si on va comprendre beaucoup de choses. Mais lui aussi, alors il est entouré de potes, il est entouré de Jirel. Il y a une famille qui est imposante aussi, dont il essaye de partir. Mais bon, s'il travaille pas, c'est difficile. Mais finalement, lui aussi, sa solitude est immense au point de se tourner vers ce qu'on peut trouver aussi dans certains coins du centre de la France, des espèces de marabouts, on va se tourner vers la magie parce que finalement, le réel, le normal, il n'y a plus que le virtuel et la magie qui peut sortir certaines personnes de l'ordinaire finalement.
Oui, c'était vraiment ça l'idée, c'est que la solitude, elle est flagrante et elle est frappante chez Joseph parce qu'il voit jamais personne, enfin il voit presque jamais personne, elle est évidente. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'on peut vivre n'importe où et comme je le disais tout à l'heure, qu'on a tous vécu à un moment dans notre vie, y compris si on est très entouré, y compris si on est en couple, y compris si on a des enfants, dans quelle que soit notre situation. Et pour moi, Armand, c'est un peu la caricature de cette idée-là, quoi. C'est-à-dire qu'il est c'est quelqu'un qui est très entouré, il vit dans une ville très très peuplée, il est entouré de monde en permanence, il a sa bande de copains qui l'appellent son gouvernement, avec qui il est tous les jours. Il est fou amoureux de cette Monique, mais à travers tout ça, en fait, c'est quelqu'un qui est très seul, quoi, et qui, à travers son activité, en essayant de gagner de plus en plus d'argent, en essayant de s'acheter des belles fringues, en essayant, en se prenant en photo pour mettre sur Facebook des photos de lui entouré de billets, etc., en fait, ça reflète une forme de grande détresse également, quoi.
Et en parlant de détresse, les autres personnages, ceux qui sont dans l'écho, les premiers qui parlent, donc Alice, Joseph, Marie B, eux justement, on dirait, et je pense que c'est une réalité, c'est qu'à force de solitude, ils ont perdu un certain sens, et peut-être un certain bon sens, des codes sociaux, de décrypter des phrases, de décrypter des messages, de décrypter des choses qu'on leur dit ou qu'on leur envoie, et qui sont devenus quelque part inaptes à la vie, ça c'est sûr, mais surtout, et ça c'est terrible, inaptes à l'amour.
Oui, c'est très vrai ce que vous dites là, quoi. Mais moi, je suis convaincu que c'est assez proche de la réalité, quoi. Parce que l'amour, c'est un mot qui recouvre en fait beaucoup de choses. Chacun se fait son idée sur la question. Chacun l'interprète à sa manière et chacun le poursuit à sa manière, quoi. Et pour moi, on a ce l'exemple le plus flagrant, c'est ce couple là de Alice et Michel qui vivent ensemble, mais qui en fait petit à petit avec les années divergent et ils ont beau vivre ensemble, leur solitude est la plus grande et leur solitude est immense. Et on a ce personnage d'Alice qui est une assistante sociale qui passe en fait ses journées à aller aider les paysans en détresse, notamment en détresse de solitude, et qui est persuadée d'être une très fine psychologue, de leur apporter du réconfort, etc. Et qui se rend pas compte qu'à côté d'elle, elle a son mari qui est en souffrance et qu'elle est incapable de voir quelle est l'ampleur de sa souffrance, quoi. Et pour moi, c'est le pire, quoi. C'est ce qu'il y a de plus difficile,
je terminerai, parce que nous arrivons à la fin de l'émission, je terminerai par une dernière question et en fait une citation. C'est pas un hasard si vous avez placé ces personnages, les trois premiers, dans l'écho, un coin perdu, et je vous cite un coin perdu, un milieu de la France, attendez, excusez-moi, ce plateau, voilà, c'était un vrai gruyère. Partout sur nos terrains, il y a des avennes, ces trous creusés par les pluies dans le calcaire et qui relient la surface aux profondeurs. Et j'ai vraiment eu l'impression que vos personnages étaient, le cerveau de vos personnages était à l'aune de ce plateau. C'est-à-dire que vous essayez toujours de relier la surface à la profondeur.
Oui, oui, bah, enfin, c'est, pour moi, c'est des territoires qui sont assez symboliques, quoi. Bon, l'histoire aurait pu se passer n'importe où ailleurs, mais les causes, pour moi, étaient les plus adaptées, parce que c'est les territoires les plus désertiques de France, quoi. Et effectivement, il y a ce côté gruyère, ce côté de voilà, ce qu'on appelle ces reliefs un peu karstiques, quoi. C'est vraiment ces zones calcaires qui, en fait, sont percées d'avennes au moment du ruissellement des eaux. Et avec, voilà, plein de légendes sur ce qui se passe au fond des avennes, où on imagine, on n'y croit plus beaucoup aujourd'hui, mais où dans le temps on imaginait des monstres, des revenants, des choses comme ça qui vivaient dans les profondeurs.
Et peut-être des hommes qui vivent
un petit peu au-dessus de tout ça, un petit peu toujours menacés par les profondeurs, quoi. Il y avait vraiment cette idée-là, ouais, tout à fait.
Colin, on arrive à la fin de notre émission. On va bientôt avoir les informations, comme on dit. Donc, on va citer le titre, on va reciter Seules les bêtes. Donc, Colin Niel, merci beaucoup et à très vite, j'espère.